Merci Paul. Si tu peux mettre là. Merci beaucoup. Nous commencerons notre méditation ce matin en lisant un passage bien connu dans lecture dans Marc, 10, 17 à 22. Et je lis cet épisode connu de tous. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. » Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous revenons de congé. Que nous soyons partis de notre domicile ou que nous ne l'ayons pas quitté. Mais nous ne revenons sans doute pas tout à fait les mêmes qu'au début de cette période de rupture. Les vacances, du latin vacare, c'est fait pour vaquer. Vacare veut dire être inoccupé, être oisif, être vacant, être vide. Encombré de tant de pensées, agenda bourré jusqu'à l'insupportable, nous avions tellement besoin de nous arrêter. Ou au moins de ralentir, de rompre avec une cadence qui nous était imposée. Sentiment de trop-plein. Ne dit-on pas aujourd'hui faire le vide ? En même temps, ne dit-on pas aussi que l'on se sent vidé lorsqu'on est fatigué ? Alors, il faudrait savoir, vide ou plein ? Comment revenons-nous ? Je ne sais pas si ça avance. Bon, c'est pas grave. Nous n'en avons pas un besoin absolument indispensable. Comment revenons-nous, vide ou plein ? Vide. Nous avons évacué nos préoccupations, nous avons désencombré notre espace intérieur, nous en sommes arrivés à faire le grand ménage dans nos têtes, peut-être même qu'un régime alimentaire ou un peu plus de sport nous a fait éliminer des toxines. Nous a régénéré. Le régime d'été, perte de poids, tour de taille idéal. La tête vide, le corps léger, vide et léger, le rêve. Le vide comme un idéal, repartir à zéro, tout recommencer. Mais vide aussi comme vide, avec un grand V. Ça peut être aussi le sentiment du manque, de n'avoir rien en soi. Ne pas avoir ce qu'il faut, de passer à côté. Il te manque une chose, dit Jésus au jeune homme riche, alors qu'il a le sentiment d'avoir rempli tous ses devoirs, d'avoir rempli sa vie à force d'observer les commandements. Il te manque une chose, tu as trop. Il te manque une chose, tu as trop. Ben oui, tu es trop plein. On dirait aujourd'hui, tu es plein aux as. Il te manque une chose, car tu as trop. Voilà un paradoxe. Plein. Nous revenons plein. Nous avons rechargé nos batteries, les projets sont à nouveau à l'horizon, tout est bien rangé dans nos têtes, nous y voyons plus clair. Nous sommes prêts à nous mettre à l'ouvrage, nourris d'enthousiasme et remplis d'énergie. Le jeune homme riche, a une mentalité d'entrepreneur. Écoutez bien ce qu'il dit. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Je suis plein de bonne volonté jusqu'à ras-bord. Alors on y va, par où on commence ?» Et Jésus, on l'a vu, énumère les commandements. Pendant ce temps, le jeune homme riche coche. « Ça, je l'ai fait. Carton plein. J'ai tout respecté. Je ne peux pas mieux faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire ?» Nous pouvons comme ça être actifs, décidés, volontaires, jusqu'à plus voir l'essentiel. Et en ce qui concerne le jeune homme riche, c'est tellement évident qu'il ne le voit plus. Il est riche avant d'être jeune. Il est riche avant d'être un homme. Et il pense encore, comme il le dit lui-même, à hériter de la vie éternelle, à accumuler encore, à remplir encore et encore. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux finalement, être vide ou plein ? Vide ou plein, nous voyons que ce n'est pas la vraie question. Et pourquoi aurions-nous d'ailleurs à décider entre les deux ? Plein, ça serait mieux que vide ? Nous voyons bien que Jésus met le doigt sur ce manque d'espace entre le jeune homme et ses richesses. Il n'y a plus de place, il n'y a plus assez d'espace vide. Alors, vide, ça serait mieux que plein ? Mais le vide serait donc plein de promesses, d'une ouverture à la nouveauté, d'une disponibilité envers Dieu et nos prochains. Le mythe de l'homme ou de la femme neuve, surtout au retour des vacances, qui redémarre à zéro, libre de toute influence, de toute détermination, ce mythe fonctionne. Il est fréquemment entretenu par les messages publicitaires et vous allez y avoir droit. Buvez Evian. Mais nous ne sommes jamais vides de toute notre influence, de toute notre histoire, de tout ce que notre environnement a construit en relation avec notre personne et de ce que notre personne a construit en relation avec l'environnement. Vide, ce serait mieux que plein, mais si oublier que le vide, c'est parfois le besoin non comblé, le trop d'espace pour soi, la solitude, l'absence. Pourquoi aurions-nous à décider ? Une bouteille, par hasard, dans ma bouche. Une bouteille pleine ou vide reste une bouteille. Pleine d'un liquide, pleine d'air, elle reste une bouteille. Et la vraie question pour nous ce matin, c'est qu'est-ce qu'on met dans la bouteille ? Si ça veut bien. Oh, ça veut pas, si. La vraie question, c'est celle-ci. Paul a réponse à cette question du vide et du plein, il nous indique un choix radical. Il faut que vous soyez rempli, oui, mais s'il faut que vous soyez rempli, il faut que ce soit par le Saint-Esprit. Votre espace intérieur, votre vie sont de toute façon remplis de quelque chose. Que dit Paul ? Il nous dit tout simplement, soyez rempli du Saint-Esprit, et il le dit en l'écrivant, et c'est le commentaire qui nous le renseigne, en l'écrivant d'une façon particulière, ce qu'on appelle en grec un impératif présent progressif, qui veut dire, finalement, si on traduit mieux, pas soyez remplis du Saint-Esprit, mais soyez en train constamment d'être remplis. Voilà, si on pourrait le traduire comme ça, globalement. Et ça implique l'idée d'une action qui est continue, qui est progressive, qui est sans fin, et surtout pas une action définitive accomplie une fois pour toutes. Certains traducteurs, comme Alfred Kuhn, l'avaient traduit ainsi. Vous allez voir, la traduction est longue, mais c'est pour traduire l'idée. Buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Rien de moins que ça. Alors reprenons l'image de la bouteille qui nous représente. Nous sommes appelés à nous laisser remplir par l'Esprit de Dieu constamment. Et nous savons aussi que lorsque nous ne le voulons pas nous-mêmes, cela ne se fait pas tout seul. Paul ne dit pas autre chose. Soyez en train d'être remplis de l'Esprit. C'est notre affaire. Nous avons un rôle à ce sujet et nous sommes les auteurs de certains choix sans pouvoir en rendre les responsables, en responsables les autres. Ainsi, à l'église d'Éphèse, Paul indique que le fait d'être devenu chrétien a des conséquences concrètes. Et je vais lire rapidement le verset 17 tout d'abord. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vanité, ça peut être aussi traduit par le vide. Et versets 25 à 30. C'est pourquoi, conséquence concrète, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous depuis que vous avez accepté la grâce de Dieu. Vous avez, nous dit Paul, comme il le dit aux Éphésiens, une responsabilité nouvelle à assumer et vous faites vos choix. Et ces choix ont une conséquence. Et la nature des choix que vous faites laisse plus ou moins de place au Saint-Esprit en vous. Paul écrira aussi aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Attrister l'esprit, éteindre l'esprit, c'est donc notre responsabilité. C'est un thème tout à fait central que celui de notre responsabilité dans la place que nous acceptons de laisser en nous à l'Esprit Saint. On peut illustrer cela avec une pompe à air. Lorsque vous gonflez un pneu, vous poussez l'air en dehors de la pompe et vous évacuez l'air de la pompe. C'est un peu ce que demande Paul aux Éphésiens. Il faut évacuer certains comportements, il faut se débarrasser de certains comportements, il faut faire de la place, il faut faire le ménage avec des habitudes qui vous empêchent d'être remplis de l'esprit. Vous voyez, comme nous ne sommes pas des bouteilles inertes, et des bouteilles passives. Alors pour autant, nous ne pouvons pas nous remplir nous-mêmes de l'esprit, et heureusement, nous ne pouvons pas obtenir nous-mêmes la plénitude de l'esprit, et c'est pourtant ce que croient certains, à force d'efforts, à force d'ascèse, à force d'abnégation, d'oubli de soi, ils pensent qu'ils vont développer par eux-mêmes, par leurs propres efforts, cette plénitude. Comment dès lors permettre à l'esprit de se développer en nous? Tout d'abord, et c'est commencer par le commencement, la base, ne pas oublier que dès que nous reconnaissons être ses enfants, l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est toujours important de se le rappeler, même en ayant de l'expérience dans notre vie chrétienne, se rappeler que, quoi qu'il en soit, dès le moment où nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et le réconciliateur avec notre Dieu, nous sommes habités par l'Esprit. Paul écrit aux Romains, « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. » Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. C'est fait. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. C'est important de se rappeler ça sans arrêt, que dès le moment où nous sommes capables d'appeler dans nos prières Dieu notre Père, c'est l'Esprit qui agit en nous, conjointement avec notre esprit. Redisons donc ce que Paul affirme aux Éphésiens. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous depuis que vous avez accepté la grâce de Dieu. Donc le sujet, ce n'est pas à nouveau d'accueillir l'Esprit Saint, mais de le laisser agir en nous. Deuxième point, nous avons besoin de réaliser, et je parle pour moi comme pour tout le monde, ce que Dieu nous demande quotidiennement. Et nous en avons eu quelques échos dans notre propre introduction ce matin. Dieu nous demande une disponibilité à l'égard de son esprit. Ralph Challis a écrit pas mal de livres, et notamment, il a souvent employé cette image du fait que Nous sommes comme une rivière, que nous avons besoin d'être alimentés constamment par l'Esprit Saint, à condition que nous le voulions, évidemment. Et ça, c'est un aspect central de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas une relation autoritaire. Assieds-toi là, je vais faire le reste. C'est une relation d'échange et de partage. Et elle dépend quotidiennement de nous, en définitive. Je voudrais insister là-dessus ce matin, sur le fait que notre relation est un choix permanent, réitéré, qui nous engage à chaque instant et qui fait de nous, c'est vrai, dans la vie quotidienne, des équilibristes, quelquefois. Paul a rappelé ce choix aux Galates, qui en quelque sorte cherchait une forme de sécurité psychologique par rapport à ce difficile équilibre. Et il ne voulait pas trop se poser de questions. Et vous vous souvenez que les Galates étaient sous l'influence, et c'est ce que d'ailleurs regrette Paul, ils étaient sous l'influence de docteurs de la loi qui leur demandaient de revenir à l'observation de la loi de Moïse. Et Paul est obligé de leur rappeler l'enjeu. Dans le chapitre 5, verset 1, il leur rappelle, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais il leur dit aussi autre chose, versets 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ou de la nature humaine. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors on pourrait se dire, les Galates, c'est piteux, hein. Mais si on regarde un petit peu pour nous-mêmes, nous avons quelquefois aussi la même attitude qui consiste à être confortable dans nos habitudes, à nous inventer des petites règles qui nous sécurisent, à nous décider un cadre à titre personnel ou même en tant qu'Église, qui peut ne plus nous faire marcher selon l'esprit, mais selon notre nature humaine. Et nous avons, en tant qu'Église et en tant qu'individu, à faire en permanence le choix de nous laisser aller au plus facile, sur notre pente naturelle, ou de faire l'effort d'entrer dans une nouvelle dimension qui est celle du risque et de l'ouverture constante à l'Esprit de Dieu. Anecdote personnelle. Il m'arrive souvent de me réveiller au milieu de la nuit et j'observe qu'à ce moment-là, dans une situation où rien n'occupe vraiment mes pensées, si je les laisse dériver, elles me conduisent assez souvent à des impasses. Et j'expérimente que mes réflexions sont alors assez pessimistes. Et quel que soit le sujet auquel je pense, je l'envisage sous l'aspect le plus sombre. La pente naturelle de ma réflexion est alors négative. On pense très très mal à 4 heures du matin. Et c'est alors que j'ai le choix, continuer ainsi et ressasser sans cesse, et sans solution d'ailleurs. Ou alors, laisser l'Esprit de Dieu à nouveau me remplir. Et pour moi, ça passe souvent par la mémorisation du psaume 23. Très souvent, régulièrement, c'est la seule façon pour moi de sortir de cette impasse, c'est de me rappeler « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages ». Il me dirige près des eaux paisibles. Laissez à nouveau l'Esprit Saint me remplir. Alors j'ai posé tout à l'heure une question à laquelle on pourrait légitimement attendre une réponse très technique, hein, très complète. Comment permettre à l'Esprit de Dieu de se développer pleinement en nous, en 5 points, en 3 semaines, en 10 leçons, que sais-je? Et vous allez me dire, alors c'est tout? Bon, d'abord, le sujet de l'Esprit Saint est un sujet qui pourrait nous occuper toute l'année. Mais en effet, je n'ai pas d'exercice à faire, je n'ai pas de yoga spirituel qui m'amènerait toujours plus profondément dans un état de conscience supérieur. Dieu nous demande simplement de laisser vivre en nous l'Esprit, sans l'attrister, sans l'éteindre. Et il attire notre attention sur tout ce qui peut entraver cette vie de l'Esprit. On l'a vu. C'est sévère vis-à-vis des Éphésiens, c'est sévère vis-à-vis des Galates, un peu moins vis-à-vis des Thessaloniciens. Dès le moment où nous devenons enfants de Dieu, réconciliés, l'Esprit de Dieu habite en nous. Cela, c'est notre état normal, ordinaire. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas ordinaire, c'est tout ce qui va venir troubler cette situation. C'est tout ce qui va venir brouiller la relation. Donc, pas besoin de contorsion mentale, d'exercices compliqués pour atteindre je ne sais quelle hauteur. Ce travail ne nous est pas demandé. Nous ne sommes pas dans le domaine aujourd'hui de ce qu'on voit fleurir partout. Il faut saisir à bras le corps son développement personnel. En revanche, nous avons des leçons à tirer des expériences que nous vivons pour être de plus en plus matures et de plus en plus avertis, et Paul dirait de plus en plus adultes. Il y a une deuxième dimension, et je vais terminer par là. Effectivement, la diapositive y est déjà, c'est que la vie de l'esprit se partage. Ephésiens 5, 18 à 21, que nous rappelle Paul, après avoir dit « Soyez au contraire remplis de l'esprit », dans la version français courant, « Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cinq cantiques inspirés par l'esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » Et la communion avec l'Esprit Saint, effectivement, elle se partage dans une dimension, vous l'avez senti, à la fois verticale et horizontale. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et de cinq cantiques, la dimension horizontale. Certaines traductions vont d'ailleurs plus loin et elles disent « Parlez-vous les uns aux autres à travers les psaumes, les hymnes et les cinq cantiques. » Parlez-vous, dimension horizontale. Et quand nous chantons, et je l'ai d'ailleurs entendu tout à l'heure dans une prière, quand nous chantons, nous nous parlons aussi les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ, encore la dimension horizontale. Alors là, c'est un peu moins simple. Se soumettre les uns aux autres, voilà le contraire de l'affirmation orgueilleuse. Soumettre les autres, ça nous va bien. Je parle pour moi. Se soumettre aux autres dans la recherche de l'unité, voilà qui est beaucoup plus difficile. Se soumettre aux autres, mutuellement. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur, voilà pour la dimension verticale. Et encore, remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La communion, alors, communion en grec, c'est le mot koinonia qu'il faut utiliser pour en rendre compte, c'est effectivement la notion de partage, de communion. La communion fait que les chrétiens remplis de l'esprit sont en communion à la fois les uns avec les autres, dimension horizontale, et avec Dieu, dimension verticale. Alors, conclusion, puisque j'ai dit que je m'arrêtais. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas un état particulier de la vie chrétienne, extraordinaire, fabuleux, donné à quelques-uns. C'est un état ordinaire. Nous qui sommes tellement ballottés entre deux états extrêmes, tantôt se sentir oppressés par le fait de ne plus avoir d'espace libre pour soi, le trop-plein, tantôt de ne pas être suffisamment occupés, le trop-vide, nous tardons à réaliser que ce qui nous comble, en fait, c'est une qualité de relation avec notre Créateur à travers l'Esprit, déjà implanté en nous et qui ne demande qu'à croître. Comment revenons-nous au tournant de cette période de congé ? Vide ou plein ? C'était la question de départ. La question que notre Dieu nous pose ce matin à travers Paul est différente. Est-ce que tu peux accepter, est-ce que tu vas accepter que l'Esprit Saint te remplisse davantage dans les jours, les semaines, les mois qui viennent ? Ça tient beaucoup à toi, ça tient beaucoup à moi, ça tient beaucoup à nous tous dans le partage. Amen.